Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui au traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Van Eghem, un ouvrage qui compte parmi les ouvrages qui ont fortement influencé ce qu'on pourrait appeler la composante radicale de mai 68, qui a eu lieu donc 6 mois après l'apparition de cet ouvrage, dont il nous semblait pour cette raison, important de reparler, et aussi parce qu'on pense qu'il y a, dans cet ouvrage, un certain nombre de choses qui sont encore intéressantes et pertinentes aujourd'hui, à la fois dans la critique du capitalisme et dans les perspectives de son dépassement à un niveau social, révolutionnaire, et aussi à un niveau subjectif. Et donc, pour parler de cet ouvrage, qui est malgré tout long et un peu difficile, on va avoir recours à Pierre-Ulysse Barranque, doctorant à l'Université Paris 1 et co-directeur d'In-Situ, Théorie, spectacle et cinéma chez Guy Debord et Raoul Van Eghem, paru aux éditions Gruppen en 2013, et avec qui nous avons déjà fait une émission sur la psychologie de masse du fascisme de Wilhelm Reich. Donc bonjour.
Bonjour.
Alors donc Pierre-Ulysse, on t'a sollicité pour nous rendre plus limpide cet ouvrage assez long, un peu fouillis, et qui est assez littéraire. Et c'est vrai que quand on est habitué, comme moi, à lire plutôt de la critique de l'économie politique, de la critique du capitalisme un peu méthodique, c'est vrai que ça, c'est un peu déconcertant comme ouvrage. Alors pour les gens qui d'ailleurs n'auraient pas le temps, malgré l'envie que ça va donner cette émission de le lire, on pourra recommander un autre ouvrage de Raoul Van Eghem, qui avait été signé à l'époque sous le pseudonyme de Radgeb. Donc c'est un ouvrage de 1974, qui s'appelle « De la grève sauvage à l'autogestion généralisée », qui donne un condensé en une centaine de pages à peine, de la critique du capitalisme et de la société de manière générale, de Raoul Van Eghem et ses perspectives de dépassement. Donc on recommande en parallèle de cette émission la lecture de cet ouvrage auquel on fera parfois référence au cours de l'émission. Alors dans cette émission, on va donc dans une première partie parler du contexte de cet ouvrage, de l'écriture, de la parution et surtout ses répercussions historiques et de sa critique de la société capitaliste. Et dans une deuxième partie, on parlera davantage de la partie sur le renversement de perspective, comme c'est le titre de la deuxième partie de l'ouvrage, et qui est sur un peu ce qu'on pourrait appeler la révolution des subjectivités. Donc voilà, Pierre-Ulysse, est-ce que tu peux nous présenter un peu le contexte de cet ouvrage, qu'est-ce qu'il y a à en dire de manière générale, avant de rentrer un peu plus précisément dans sa critique de la société capitaliste ?
Oui, mais tout d'abord, il faut commencer par la date, 1967. C'est vraiment, je pense, par l'attention sur cette date qu'on peut entrer dans le texte de nos jours, puisqu'on a souvent considéré, et à raison, je pense, que les situationnistes, notamment Guy Debord, qui sort en 1967 la Société du spectacle, et Raoul Van Eghem, qui lui sort son traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations cette même année, ont anticipé le mouvement de mai, et l'ont anticipé à une époque où personne ne le voyait venir. On se rappelle de l'édito de la France qui s'ennuie, en 1967, et qui ne participe pas aux grands événements du monde, alors que la jeunesse allemande s'est déjà révoltée dès 1967, qu'il y a évidemment le mouvement américain des droits civiques et le mouvement étudiant contre la guerre au Vietnam, qui est déjà très très important. L'année 67 semble être l'année morne dans une France gaulliste apaisée après les années terribles de la guerre d'Algérie, qui a marqué définitivement la France. Et je crois qu'on ne peut pas penser 68 si on ne met pas en relation avec les années terribles de la guerre d'Algérie. Et au moment où, on va dire, la France est enfin en paix, elle n'était pas en paix depuis quasiment 45, puisque la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie se sont suivies. On l'oublie toujours, cette continuité militaire de l'impérialisme français. Eh bien, un groupe, les situationnistes, annonce une révolution à venir. Et évidemment, sur ce moment-là, personne ne les croit, ou même beaucoup se sont ri de cette hypothèse-là. C'est ce que raconte notamment Raoul Van Eghem en introduction dans sa préface au tout début du livre, où le livre a failli être rejeté par Gallimard parce que cette constat d'une révolution imminente passait complètement à côté de la réalité des temps chez une bonne partie des élites françaises. Mais il faut savoir que pour les situationnistes, le mouvement révolutionnaire est déjà dans une période de réactivation, selon eux. Raoul Van Eghem, comme on le sait, est belge. Et avec une partie des membres de l'IS, il a vécu un grand événement révolutionnaire dans le contexte des luttes ouvrières belges, qui est la grève générale de 1960-1961. Et dans cette révolte belge, qui s'est surtout centrée sur la Wallonie et qui a eu une influence même fondamentale sur le développement de la Belgique a posteriori, parce que la division entre Wallonie et Flandre apparaît vraiment à ce moment-là, puisque l'insurrection a vraiment été dans les régions du sud et pas celle du nord. Cette insurrection wallonne de 60-61 va être, pour une partie des situationnistes et pour Van Eghem en particulier, l'expérience fondamentale d'une insurrection ouvrière, où, à partir d'une critique du mouvement ouvrier belge sur la situation des mines, du charbonnage, Van Eghem va voir petit à petit une critique du travail lui-même apparaître chez ces ouvriers belges. Et toute cette culture conseilliste et ouvriériste qu'on a chez les situs, finalement, ils l'ont vécu d'une manière concrète en Belgique. Mais les Français, souvent méprisant la Belgique, il y a très peu d'intellectuels comme eux qui ont eu cette écoute de cette révolte ouvrière. Et il est même probable que si la France n'était pas dans le contexte de la guerre d'Algérie à ce moment-là, ce mouvement ouvrier belge aurait pu se déplacer, déjà dans le nord de la France et puis peut-être dans d'autres régions. Donc, à un moment où on pense que la classe ouvrière est complètement intégrée, eux, ils ont vécu une insurrection la plus radicale, seulement la plus radicale de l'après-guerre jusqu'au 68 français. Donc ça, c'est un point qu'on oublie souvent. C'est pour ça que le traité de savoir-vivre, alors souvent, on est en extase sur le fait qu'il a été publié un an avant 68 et qu'il a tout prévu, mais comme le rappelle Van Eghem au tout début du livre, l'ouvrage a été écrit entre 63 et 65, donc 2 ans après ce mouvement belge. Donc, c'est-à-dire non seulement ils avaient tout prévu un an avant, mais ils avaient tout prévu bien plus qu'un an avant, puisque 4-5 ans avant, ils sont déjà dans un travail de réflexion sur la prochaine insurrection à venir. Et c'est à peu près la même chose chez Debord, on le sait. Les premières versions, le premier travail sur la Société du spectacle est plus ou moins contemporain de l'écriture du traité de savoir-vivre.
Oui, c'est intéressant parce que les situationnistes vont pressentir finalement que, disons, l'assaut prolétarien des années 68 et des années 70 va venir à la fois d'ouvriers révolutionnaires qui sont dans le refus de leurs conditions de prolétaires et dans le refus du travail, qu'eux, ils voient déjà en 61 en Belgique, mais que la plupart des gens ne voient pas, puisque à l'époque, les thèses, effectivement, c'est celle de l'embourgeoisement du prolétariat. Il y a une bonne partie de la gauche française qui n'a Dieu que pour les couches nouvelles, les classes moyennes salariées, les étudiants. et les ouvriers sont vus comme des fossiles qui ne peuvent que soutenir le Parti communiste français. Et d'un autre côté, les situationnistes sont quand même aussi attentifs à la révolte d'une partie des étudiants et des jeunes qui refusent de devenir cadres. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la fameuse brochure de la misère en milieu étudiant, auquel on a consacré une émission avec Sylvain de Zone Subversive.
Et donc, autre aspect de ce livre, qui est, voilà, dès qu'on s'approche de ce texte lui-même, bon, traité de savoir-vivre à l'usage jeune génération, c'est un traité, c'est un livre d'éducation, en fait. On est quasiment dans le... Voilà, dans le texte de formation pour les jeunes générations révolutionnaires, ce qui explique aussi son aspect assez littéraire, je trouve, philosophiquement très riche, serti de nombreuses références à Hegel, à Nietzsche, à Marx, n'en parlons pas, à Freud, évidemment, mais qui a quand même un aspect de rhétorique très proche, bon, des traités littéraires. Raoul Van Eghem, d'ailleurs, est un spécialiste de lettres romanes, dans sa formation, donc c'est plus un littéraire et notamment un spécialiste de la littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance qu'un théoricien ou qu'un philosophe à la base, ce qui peut donner d'ailleurs l'aspect des fois brouillon ou fouillis. Il y a, voilà, les chapitres sont souvent relativement indépendants, s'enchaînent, on sent d'une façon qui est là aussi au fil de la main, mais qui... Voilà, et l'écriture très très littéraire, de gens qui ont été très marqués par les avant-gardes littéraires et notamment par le surréalisme. Ça, c'est un point sur lequel je pense qu'il faut mettre l'accent. L'influence et le débat critique autour du surréalisme qui est à l'origine de l'international situationniste et même avant de l'international lettriste et qu'on retrouve au cœur du livre, puisque parmi ces grandes références, il n'y a pas seulement des philosophes, il y a aussi le dadaïsme. Que l'IS, l'International Situationniste, essaie de retrouver, le surréalisme avec lequel ils ont un rapport assez ambigu et assez complexe, puisque à la fois ils sont très critiques de ce qu'est devenu le surréalisme, et très critiques notamment de bord au début de l'IS vis-à-vis de Breton. On voit que Van Eghem, lui, Breton est en voie de réhabilitation à cette époque-là au sein de l'IS, parce qu'il fait un peu la part des choses entre ce que, selon lui, les surréalistes ont raté en étant... encore trop des artistes, et ce qu'il y a de très fort, le noyau révolutionnaire, on va dire, de cette avant-garde-là.
Notamment le refus du travail.
Notamment le refus du travail, ou la question de l'émancipation dans un vouloir vivre qui ne serait pas un vouloir dominer, ce qui renvoie évidemment à Reich, Wilhelm Reich, qui est présent dans ce livre aussi, très présent. Et voilà, avec des références qui vont même jusqu'à Lautréamont et Sade. Donc on est entre l'essai littéraire tel qu'on a trouvé voilà, dans les années 20, les années 30, avec les avant-gardes telles qu'était le surréalisme, et l'essai théorique, ce qui donne peut-être cette forme un peu paradoxale, mais voilà, qui invite une lecture très attentive, parce qu'on peut... C'est parmi les textes que je trouve très très difficile, cet ouvrage de Van Eghem, parce que c'est un livre qui pourrait paraître simple, parce que certaines pages... passe assez facilement, et c'est justement ces textes-là qui sont les plus difficiles. Parce souvent, on peut passer à côté, alors qu'il y a des éléments de réflexion fondamentale. Bon, on en parlera de quelques-uns dans cette émission. Il y a notamment une critique du cinéma qui est très forte, sur laquelle j'invite les auditeurs à s'inspirer. Et toute une critique aussi de l'art de son époque, une critique du pop art. Même Godard aussi en prend pour son grade, alors que lui aussi fait partie des rares qui avaient... dit-on anticipé 68, puisqu'il fait la chinoise lui aussi en 67, hein, pour mettre en parallèle la chinoise du côté des Mao et Debord Van Eghem du côté plutôt des pensées libertaires et conseillistes, hein, dans les grands intellectuels qui ont anticipé ce mouvement-là. Et sur le rapport au surréaliste, il y aurait un point de vue assez général qu'on pourrait mettre en avant. Déjà, Raoul Van Eghem, son traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, c'est le best-seller de 68. S'il y en a eu un, c'est celui-là. C'est le livre le plus vendu, le plus volé en 68. Sachant que 68, c'est le mois de mai a été le moment où la vente des livres en France a explosé tous les records. On n'a jamais autant vendu de livres qu'en mai 68. Ça c'est, les chiffres sont à l'appui. Et pour ma part, j'avais fait un travail sur les archives de 68. Et mon tropisme régional avait fait que j'avais fait un travail sur les archives du 68 toulousain. Donc j'avais étudié les textes des mouvements étudiants et ouvriers à Toulouse, comme il y a eu voilà, un mouvement très fort également à Rennes, à Nantes, pas seulement à Paris. On essayait de faire une sorte de contrepoint entre le 68 parisien qui est très connu et peut-être le 68 de province ou des dom-tom qui est malheureusement moins connu. Et quand je travaillais ces archives-là, mais je voyais l'omniprésence de la pensée de Van Hegem dans les textes, qui étaient souvent, même la plupart du temps, jamais cités, mais dans les concepts, certains concepts sur lesquels nous allons revenir probablement aujourd'hui, le concept de rôle, le concept de subjectivité radicale, etc., étaient vraiment omniprésents. Raoul Van Hegem et Henri Lefebvre ont été vraiment deux penseurs centraux de 68. Et finalement, tout ce qu'on a appelé la French Theory, eux sont les penseurs, on va dire, de l'après, des années 70, si on veut. Et on plaque, d'une manière a posteriori, l'influence de ces immenses penseurs, qui sont passionnants, évidemment, Deleuze, Foucault, Derrida, etc., sur 68, alors que 68, c'est vraiment le moment où voilà, la pensée d'Henri Lefebvre, qui est un proche des situationnistes, et de Van Hegem, moins que de Bohr d'ailleurs, a été vraiment dominante et hégémonique, puisque, on va dire, ce qu'on a appelé les années gauchistes, soit trotskiste avec la JCR, soit maoïste avec la gauche prolétarienne, c'est plutôt 69, 70 jusqu'en 73. La pensée théorique politique du mois de mai, c'est plutôt chez Van Hegem, même plus Van Hegem que Debord, qu'il faut aller la chercher. Ceux qu'ont préparé 68, c'est les situationnistes, les libertaires, et aussi, il faut l'admettre, les trotskistes aussi, qui étaient présents dès le début, notamment dans le mouvement ouvrier, puisque le début de 68, du 68 ouvrier, c'est la grève de Sud-Aviation, et elle est menée par des trotskistes. Donc finalement, c'est plutôt trotskistes, situationnistes et libertaires qui étaient à l'origine du mouvement. Et sur le moment, et ça on l'oublie un peu aujourd'hui, quand on regarde les textes, vraiment, la pensée de Van Hegem, on a l'impression qu'elle est dans toutes les têtes. Et beaucoup plus que la Société du spectacle de Debord, qui est écrit en langage hegelo-marxiste, en langage lukacien, et qui était assez difficile d'accès. Alors que l'aspect littéraire de Van Hegem et son lien, comme je disais précédemment, avec les avant-gardes littéraires, notamment les surréalistes, l'a rendu beaucoup plus populaire. Et ce rapport entre les situationnistes et les surréalistes, moi, me rappelle ce texte de 1929 de Walter Benjamin. En 1929, il écrit un texte très fameux sur le mouvement surréaliste qui s'appelait Le surréalisme, le dernier instantané de l'intelligentsia européenne. Benjamin est sûrement le premier grand philosophe à essayer de penser le surréalisme philosophiquement, théoriquement, sa place dans l'histoire des arts, dans l'histoire de la Révolution. Et Benjamin fait une sorte de double constat sur le surréalisme, un constat de victoire et un constat d'échec. Malgré l'admiration qu'il a pour Breton et Aragon, c'est le constat qu'il fait. Il dit en gros, dans cet article, hein, que les surréalistes avaient deux objectifs, celui de révolutionner l'art et de faire cette révolution de l'art le langage à venir pour la prochaine révolution. Et Benjamin fait le constat que révolutionner l'art, les surréalistes en ont été capables. Hein. Non seulement ils ont révolutionné l'art, mais ils ont détruit en même temps l'art bourgeois, ou un rapport bourgeois à l'art, si tu veux, alors qu'eux-mêmes étaient des bourgeois, bien sûr. Mais l'idée de produire une nouvelle culture qui deviendrait le langage commun d'une révolution à venir, selon Benjamin, les surréalistes ont échoué, et bon, Benjamin a raison. Après, il faut se rappeler que quand les surréalistes interviennent, on est en pleine période déjà de stalinisation. Hein. D'où aussi la limite de l'époque, notamment en France, avec la situation du PCF à l'époque, au point que certains anciens surréalistes, comme Aragon, c'est connu, eux, deviennent carrément staliniens. Moi, je me demande si, d'une certaine façon, cet échec des surréalistes dans les années 20-30, il n'a pas été accompli dans les années 60, finalement, notamment en mai 68. S'il y a eu une révolution surréaliste qui est apparu du fait d'une réflexion qui a commencé le surréalisme, je pense que c'est le 68, le mai 68 français qui en est vraiment, vraiment, vraiment l'expression. Et c'est pourquoi, malgré un rapport très critique, l'influence de Breton, on le voit notamment dans le texte sur la théorie de la subjectivité, sur la théorie de l'amour, etc., est fondamentale chez Raoul Van Hegem.
Mais finalement, ce qui fait l'originalité des situationnistes, c'est d'avoir repris un peu cette exigence des surréalistes, de révolutionner l'art, et même eux vont plus loin, hein, c'est dépassement de l'art, abolition de l'art, et en même temps, réalisation de l'art dans la vie quotidienne. Et ce qui a, disons, donné peut-être aux situationnistes la possibilité que ce vœu de réaliser l'art dans la vie quotidienne et finalement de le dissoudre, de rendre la vie artistique, et plus que l'art ce soit quelque chose de séparé qu'on va voir dans les musées, dans les galeries, et pour lesquels il faut déjà avoir toute une culture bourgeoise pour le comprendre. C'est toute la critique de l'art des situationnistes. Enfin, le fait que les situationnistes ont pu dépasser un petit peu ce mot d'ordre, ça a été le fait qu'ils se sont intéressés à ce qui se passait à leur époque, et notamment, ils sont allés contre l'idée que les ouvriers étaient uniquement des embourgeoisés conservateurs du PCF, et ils sont allés redécouvrir toute la tradition conseilliste, libertaire, et on voit que d'ailleurs leurs ouvrages émaillent de références à Kronstadt, à 1936-1937, au Conseil en Allemagne et tout ça, et d'autre part, voilà, ils ont été aussi, ils ont vu aussi que peut-être que ces jeunes, ces étudiants, au moins une partie, même s'ils critiquent évidemment la plupart des étudiants dans la brochure de la misère en milieu étudiant, ils voient quand même que chez certains, il peut y avoir justement cette volonté de transformer radicalement la vie quotidienne de manière révolutionnaire.
Tout à fait. Et là, c'est aussi un aspect historique qui est important à rappeler. En fait, les 50 ans du traité de savoir-vivre ont fait aussi les 100 ans de 1917. C'est-à-dire que pour les jeunes de 1967, 1917, c'était que 50 ans avant, donc il n'y a pas si longtemps pour eux. Et la question de 1917 est très présente dans l'ouvrage de Van Eghem. C'est une réflexion sur l'échec des soviets en 1917. Pourquoi le mouvement conseilliste et libertaire aussi, qui était fondamental dans la révolution russe, dont Voline a beaucoup parlé dans la révolution inconnue, tout l'apport de l'insurrection ukrainienne de Makhno, etc. Pourquoi cet aspect-là de la révolution a échoué face à la bureaucratisation qui commence déjà évidemment avec Lénine. Il pense aussi l'échec du mouvement spartakiste en 1918, l'insurrection menée par Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Il y a évidemment une réflexion sur le 36 espagnol, que en tant que penseur marxiste et libertaire, évidemment, la problématique du mouvement anarchiste dans l'Espagne de la guerre civile et comment la guerre civile a été perdue, notamment à cause de la stalinisation du camp républicain. Tout ça est très 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 présent dans le texte de Raoul Van Eghem. Il dit, j'ai envie de citer des passages du livre, la lutte finale n'a connu jusqu'à présent que des faux départs. Tout est à reprendre au début. Quel est ce faux départ dont il parle? C'est 17, simplement. Donc, revenir à 17, d'autant plus que 1967, c'est juste après, c'est 11 ans après 1956, que les conseils ouvriers sont réapparus pendant l'insurrection de Budapest, qui est aussi vraiment présente dans l'ouvrage. Donc, c'est comme si ce faux départ de la révolution post-Première Guerre mondiale redevenait d'actualité à la fin des années 50 avec Budapest, en 60-61 avec la révolte belge. Donc pour eux, c'est comme si on allait avoir droit à un deuxième départ. Il y a comme une sorte de résurrection du mouvement conseilliste et libertaire. Et c'est dans ce contexte-là que De Boer et Van Eghem, et plus particulièrement Van Eghem dans cet ouvrage, veulent intervenir. Et les faits, que ce soit la révolte du mai 68 français, mais aussi bien sûr du printemps de Prague en 68, qui finalement réactualise l'aspect conseilliste qu'il y avait déjà dans le mouvement de Budapest. Voilà, ces événements leur donnent entièrement raison un an après.
Oui, et t'as fait des références à pas mal de mouvements dont il reparle d'ailleurs dans son ouvrage « De la grève sauvage à l'autogestion généralisée », où il fait un peu une critique implacable de tous les mouvements et idéologies révolutionnaires qui ont abouti à l'échec de toutes ces révolutions. Donc on a parlé de celle de 1917. Donc là-dessus, on peut renvoyer à de nombreuses émissions et notes de lecture sur Sortir du capitalisme, notamment une émission sur 1917 avec Alexandre Skirda et une note de lecture sur Voline, justement, la révolution russe, parue aux éditions Libertalia. Et puis, sur la révolution de 1936, on renvoie à une émission qu'on avait faite avec les gyménologues, voilà, sur cette révolution espagnole. Mais c'est vrai que, effectivement, les situationnistes, et notamment Van Hegem, sont très nourris de toutes ces références historiques. Et ce qui est intéressant chez Van Hegem et dans le situationnisme de manière générale, c'est que à la fois, contrairement à d'autres qui dans les années 60 font le deuil du mouvement ouvrier en disant le mouvement ouvrier c'est fini, il faut aller du côté des couches nouvelles, donc c'est le cas, le PSU de Rocard, voilà, typiquement c'est ce genre d'argumentation.
Nouvelle société.
Voilà, la nouvelle société et tout ça. Eux sont capables d'aller chercher dans le passé ce qu'il y a de plus radical, tout ce qu'on a cité, les soviets de 1917, la révolution de 1936, 1937, le spartakisme, etc. Mais en même temps, arrivent, contrairement à socialisme ou barbarie, dont ils se sont détachés, à aller au-delà de ça, à penser leur époque de manière nouvelle, sans tomber et sans rester dans une espèce d'ouvriérisme un peu lénifiant et vieillot. Et c'est ça d'ailleurs, je pense, la force du situationnisme, c'est d'avoir été en phase avec son époque et d'avoir réussi en même temps à essayer de prendre le meilleur de ce qu'il y avait dans les insurrections et les mouvements passés.
Oui, et ce point vraiment fondamental aussi est proche de Van Hegem, parce que bon, la critique à la fois du capitalisme et du socialisme, ou des États socialistes, on la connaît notamment dans la critique de Debord, hein, avec les concepts de spectaculaire diffus, spectaculaire concentré, sur lequel je ne reviendrai pas ici, parce que je pense que c'est vraiment une mauvaise approche que de penser Van Hegem par rapport à Debord, soit une erreur qu'on fait, je trouve, presque comme si l'ouvrage de Van Hegem était un ademtum à la société du spectacle, alors qu'il y a vraiment une pensée propre à Van Hegem. Et lui, pour sa part, c'est la critique qu'il fait à la fois du capitalisme et du socialisme dans cet ouvrage-là, il le fait justement par rapport à la critique du travail. C'est-à-dire les moments très précis où il attaque les États socialistes qui lui sont contemporains et les illusions, notamment d'une partie des gauchistes de son époque, c'est par rapport à la question du travail. Bien sûr, il connaît la critique du stalinisme, voilà, qui commence déjà à dater à cette époque-là, hein, que les conseillistes ont fait. Il connaît très bien cette histoire de 17, de 18, de 36, etc. Mais il se positionne aussi par rapport aux illusions de son époque, et notamment les illusions par rapport à l'URSS de Khrouchtchev, si on veut, dans un premier temps, mais aussi les illusions par rapport au maoïsme ou au guévarisme et au castrisme. Et sur cet aspect-là, c'est sur la question du travail, justement, qu'il va attaquer ces mouvements-là. C'est dans le culte du travail qu'il retrouve à la fois chez Mao et chez Castro, qu'il se positionne contre ce socialisme-là, en disant que ce qui apparaît comme une sorte de nouveau socialisme, hein, en Chine et à Cuba, en fait, est très très ancien, et rejoue les limites du stalinisme, et il renvoie en gros capitalisme et socialisme l'un contre l'autre, puisqu'il voit que derrière, il y a une même chose, qui est l'assomption de l'aliénation du travail, et donc de la classe ouvrière.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans son texte, dans l'International Situationniste numéro 7 d'avril 1962, donc un texte qui s'appelle « Banalité de base », qui, selon un des membres des gyménologues, est très intéressant et contient un peu les intuitions fondamentales de Raoul Van Hegem. J'ai eu à peu près autant de difficultés à le lire que le traité de savoir-vivre. Mais il a quand même dans sa première thèse quelque chose d'assez fort. Il dit « En somme, le capitalisme bureaucratique contient la vérité évidente de l'aliénation. Il l'a mise à la portée de tous mieux que Marx ne pouvait l'espérer. Il l'a banalisée à mesure que, la misère s'atténuant, la médiocrité de l'existence faisait tache d'huile. » Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, c'est un peu ironique ce qu'il dit, mais c'est en gros que voilà, Marx cherchait, dans les manuscrits 1844, à démontrer le fait que le travail était une aliénation, c'est-à-dire, si on reprend les trois mots allemands originaires qui ont été traduits par le même mot en français, c'est-à-dire aliénation, le fait de se déposséder de soi, le fait de se vendre et le fait de devenir étranger à soi. Eh bien, tout ça, finalement, le capitalisme bureaucratique le révélait de manière spectaculaire dans le stakhanovisme, le goulag, le culte du travail poussé à son comble. Et effectivement, une des forces du situationnisme, on aura de cesse de le répéter, c'est d'avoir fait une critique implacable de toutes les formes de capitalisme, qu'elles soient le vieux capitalisme bourgeois libéral, le capitalisme soviétique, mais même le nouveau capitalisme des années 60 qui s'amorce, presque une critique par anticipation du capitalisme de la gauche mitterrandiste et du PSU. Enfin, voilà, il y a vraiment, c'est une critique implacable de toutes ces formes de capitalisme-là.
Sur le PSU, le mitterrandisme, etc., c'est vrai que là aussi, il anticipe ce que va être la social-démocratie des années 80, puisque plusieurs fois, il dit, il y a plusieurs passages où il annonce que finalement, le socialisme sera la seule chose qui sauvera le libéralisme, quoi. Il montre même la continuité, qui est une continuité historique, hein, puisque voilà, qu'on connaît entre voilà, le socialisme entendu comme social-démocratie et le libéralisme capitaliste classique et ce qui est arrivé en France dans les années 80, entre autres, hein, nous le prouve. Comme tu disais également, bon, il y a d'une part cette critique des deux systèmes, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, qui est bon, présent chez les situs de façon générale. Aussi, les situationnistes, et Van Hegem en particulier, sont des intellectuels qui sont attentifs au devenir, voilà, le plus contemporain à leur époque du capitalisme, non seulement de ce qu'est en train de devenir les sociétés bureaucratiques en Chine et à Cuba, mais aussi dans le bloc de l'Ouest, ce qu'est en train de devenir le capitalisme des années 60-70 aux États-Unis, en France, etc. Donc c'est aussi chez Van Hegem qu'on trouve une critique radicale et passionnante de ce qu'on appellera plus tard la société de consommation. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a souvent mis l'accent là aussi sur le travail le théorique immense de Debord, hein, dans la société du spectacle. Mais voilà, on a un peu oublié l'aspect de Van Hegem, toute l'analyse de ce qu'est en train de produire la société de consommation, qui est relativement récente en France, hein, comparée évidemment à la société de consommation américaine. Et d'ailleurs, sur pas mal d'aspects, on peut voir que Raoul Van Hegem anticipe le travail que fera Jean Baudrillard. Jean Baudrillard qui publie La société de consommation un an après. Et ce n'est pas si surprenant que ça, car Baudrillard et Van Hegem se sont connus. Baudrillard en témoigne dans D'un fragment l'autre, son ouvrage d'entretien avec François Livonnet, car Baudrillard participait au mouvement du 22 mars à Nanterre, donc lui faisait partie aussi de ceux qui sont à l'origine du 68 français, et il s'en est vraiment pas du tout d'ailleurs revendiqué, il n'a pas fait l'ancien combattant en disant « moi j'y étais », etc. Alors que de facto, bon, ça aujourd'hui historiquement on le sait. Et là voilà, l'influence de Van Hegem sur Baudrillard est très importante, donc on devine à quel point, d'une manière souterraine, notamment via Baudrillard, Van Hegem a eu une influence sur ce qu'on appellera plus tard la French Theory. Et l'une des idées très intéressantes dans le traité de savoir-vivre, c'est qu'il montre que consommer un objet dans la société de consommation, c'est toujours en même temps consommer une idéologie. C'est-à-dire consommer une certaine idée que l'on se fait de la société. Au point que dans la société de consommation, défendre une idéologie aliénée, évidemment une idéologie au sens de Marx, et consommer un objet, c'est le même phénomène. Les idéologies deviennent des objets consommables, des objets qu'on achète, par exemple des objets qu'on achète dans la nouvelle presse qui apparaît à cette époque-là, le Nouvel Obs, etc. Et chaque objet les plus simples, les objets courants de consommation, porte en elle-même une certaine idéologie, c'est-à-dire un certain idéal de société qui est voilà, la société capitaliste des années 60, productiviste, société soi-disant de loisirs, alors qu'en fait, c'est peut-être une des sociétés les plus sinistres qu'il y avait eu depuis un petit bout de temps. Et c'est là vraiment où, comme je vous dis, Van Hegem anticipe le Baudrillard, puisqu'il y a vraiment des passages où il nous dit consommer un objet, c'est toujours consommer un signe social. Et inversement, hein, l'échange des signes dans la société de consommation passe par, il y a toujours un échange d'objets. Donc Van Hegem serait aussi à mettre toute cette critique sémiologique de la société de consommation qu'on a chez Baudrillard, qu'on avait aussi un peu avant déjà chez Barthes. Il fait partie de grands moments de réflexion, d'analyse de la société de consommation. Et d'ailleurs, Van Hegem est cité explicitement par Baudrillard dans la société de consommation et dans le système des objets. Et autre point qui montre bien leur continuité, c'est que voilà, Baudrillard était le disciple de Henri Lefebvre, que j'ai cité précédemment. Henri Lefebvre, sociologue de l'urbain, théoricien de la ville et traducteur des manuscrits de 1844, hein, c'est le premier traducteur en langue française. Et c'est Henri Lefebvre, qui était ami avec les situationnistes, qui a fait rencontrer Debord et Van Eghem. Donc, Lefebvre, Debord, Van Eghem, Baudrillard, on voit qu'il y a une sorte de constellation de pensée, hein, qui est aussi pas univoque, hein, il y a des débats et des positions entre eux, hein, qui se construit à partir d'une relecture de Marx, une relecture de Freud aussi, pour arriver à penser ce phénomène émergent qu'est la société de consommation.
Et justement, Van Eghem, dans son autre ouvrage, donc De la grève sauvage à l'autogestion généralisée, fait une critique de la consommation, qui est en même temps une critique du travail, c'est-à-dire que critique la marchandise dans ce qu'elle a effectivement et encore aujourd'hui de plus critiquable, c'est-à-dire que en se présentant comme entièrement positive, finalement, elle affirme positivement l'exploitation, la souffrance, l'ennui qu'il y a derrière la production de cette marchandise, c'est-à-dire le travail. Et je voulais faire un petit point peut-être sur la question de la critique du travail chez Van Eghem, alors non pas du tout de manière exhaustive, mais uniquement dans ce que j'ai lu dans De la grève sauvage à l'autogestion généralisée. J'ai plutôt été agréablement surpris, dans le sens où je pensais que ça en resterait à une critique du travail aliéné, voilà, qu'on peut trouver un peu aussi chez Debord, et finalement presque une valorisation un peu du travail concret, de la production de valeurs d'usage. Alors que, même si ça reste ambigu, et que comme chez Marx, Van Eghem utilise le concept de travail en lui donnant des sens différents, donc ce qui fait que parfois il parle du travail comme l'activité contrainte en général, et parfois il parle du travail comme disons, l'activité contrainte au sein du capitalisme. Mais globalement, la critique qu'il fait du travail, elle est, je pense, relativement pertinente, puisque pense effectivement le travail comme une activité contrainte de production de marchandises, où on doit vendre, ou plus précisément, disons, louer. Alors évidemment, d'un point de vue peut-être marxologique, en étant extrêmement rigoureux, la critique du travail de Van Eghem peut paraître un peu pas très précise. Voilà, il définit jamais très bien le concept. Mais globalement, on voit qu'il appelle vraiment à une abolition, et là c'est clairement dans sa partie un peu propositionnelle, entre guillemets, de la fin de la grève sauvage à l'autogestion généralisée. Il dit explicitement que voilà, ce sera une société on aura aboli le travail, c'est-à-dire où les gens feront globalement ce qu'ils ont envie et les tâches qu'on n'aura pas réussi à... Alors même s'il peut y avoir un rapport un peu problématique avec un fantasme de l'automatisation dont on peut discuter aujourd'hui, est-ce qu'il est bien écologiquement faisable ou même socialement réalisable, mais peu importe. Il y a vraiment cette idée que de chacun... selon ses envies, voilà, donc chacun fait ce dont il a envie, à chacun selon ses désirs. Voilà, si on pouvait reformuler un peu la formule du communisme libertaire chez Van Eghem dans ce livre, et là on voit clairement qu'il y a un dépassement effectivement de l'idéologie du travail, qui serait plutôt de chacun selon ses moyens, chacun selon son travail. Et là, Van Eghem, au contraire, Il appelle plutôt à une activité individuelle et collective créatrice. Donc, ce qui fait que, par exemple, il parle de... voilà, on va réhabiliter des anciennes formes d'artisanat. Alors, bien sûr, il a toujours une petite fascination pour les usines automatisées et tout ça qui serait discutable. Mais, quoique sur certains aspects, il est un peu précurseur. Par exemple, il parle déjà de la production solaire, d'énergie solaire. Donc, il y a quand même conscience un peu des problèmes écologiques que peut poser ça. Mais en tout cas, il appelle à supprimer le travail en le remplaçant par la créativité individuelle et collective, et tout en disant que toutes les activités, les tâches chiantes qui aujourd'hui tombent sur en général une personne qui est qui sont les femmes, voilà, qui doivent se taper la vaisselle, le ménage et tout ça, lui dit qu'il faut dépasser ça en répartissant, en faisant tourner les gens une heure ou deux enfin le minimum de temps possible, que ce soit réparti sur le de manière à ce que voilà, il y aurait un dépassement du travail par l'abolition de à chacun selon son travail, par l'abolition du caractère marchand de l'activité. Donc là, ça c'est très clair, abolition du salariat, il n'y a aucune ambiguïté chez Van Engem. Même, clairement, même si son livre s'appelle « De la graisse sauvage à l'autogestion généralisée », il précise bien que l'autogestion à la LIP, l'autogestion marchande, c'est évidemment à jeter aux poubelles de l'histoire, que ça n'a aucun sens, et qu'il faut radicalement abolir l'autogestion marchande. Et après, troisième chose, il dépasse aussi même l'idéologie du travail comme... l'activité qui est séparée, qui s'oppose au loisir. Et là, il dit, mais non, ce n'est pas d'un côté l'activité productive et d'un autre côté les loisirs. C'est il faut que les gens s'épanouissent, aient du plaisir et des désirs à faire des activités qui, effectivement, sont utiles socialement. Même si Van Engem, évidemment, n'est pas arrivé à une critique aussi rigoureuse du travail que, par exemple, dans la critique de la valeur. Il me semble en tout cas que dans ce texte, peut-être que dans ces textes actuels, c'est moins clair, mais peut-être aussi parce qu'on est dans une époque moins radicale, donc peut-être que la pensée est moins radicale au fur et à mesure des années. Mais en tout cas, dans ce texte de la grève sauvage à l'autogestion généralisée, il y a quand même une critique du travail qui nous semble assez conséquente, et qui soutient des perspectives que, clairement, même si elles sont peut-être va pas jusqu'au bout, clairement, Van Engem, discute dans la fin de cet ouvrage d'une société qui est véritablement libérée du travail. Alors, voilà, après avoir dit ça, on va faire une pause musicale, et évidemment, pour cette pause musicale, on va mettre la chanson qui a été écrite par Raoul Van Engem à la suite de la grève générale en Wallonie en 1960-1961, qui s'appelle « La vie s'écoule ». Donc, pas « s'écoule » comme on peut le comprendre aujourd'hui, mais au sens de « l'eau s'écoule ».
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui, parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies, parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies, le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés. Sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés, viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curés, ni de marchands, de policiers, au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats.
plus d'État pour profiter de l'État.